Hashtag info,
l'info qu'il vous faut.
Bonjour à tous et bienvenue sur la première émission d'Hashtag info, le webmag réalisé par les étudiants du campus Sionnet. Cette émission sera présentée par Elena, en première année à l'IUT Information et Communication. Bonjour Elena.
Bonjour Louison, elle sera également présentée donc par Louison, deuxième année dans le même IUT. Aujourd'hui, nous accueillerons tout d'abord Clap Campus, un groupe qui nous parlera de cinéma. Ensuite, nous vous proposerons une chronique sur la Fashion Week de Paris par Louise, première année Infocom, suivie d'une présentation de l'innovation Campus Day par Louison.
Nous enchaînerons par un moment musical présenté par Lucille, étudiante en deuxième année à l'IUT dans le département Gestion des entreprises et des administrations. Enfin, nous aurons une entrevue sportive avec des premières années d'Infocom, Antoine et Nicolas.
Hashtag info,
l'info qu'il vous faut.
Tout de suite, nous retrouvons donc le groupe Clap Campus qui va nous en dire un peu plus sur son projet. Bonjour à vous, Elia, Marine et Lola.
Bonjour. Bonjour.
Alors oui, Elena, alors le Clap Campus, c'est un projet tutoré de notre DUT Information et Communication de La Roche-sur-Yon et qui est en partenariat avec le cinéma Le Concorde afin de proposer chaque mois une séance à prix réduit de 4 euros et qui vise principalement un public étudiant. Mais bien évidemment, tout le monde peut venir en profiter. Également, nous proposons après la séance un buffet avec nos partenaires de la soirée qui change chaque mois afin de discuter du film qui a été projeté.
Et depuis combien de temps exactement vous avez commencé ce projet ?
Nous y sommes depuis mars 2018, après la passation de l'ancien groupe de deuxième année du DUT.
Que pouvons-nous trouver sur votre buffet ?
Alors vous avez le choix, soit de l'alcool qui peut provenir en fonction de la soirée de nos différents partenaires comme Bibovino ou la cave à vin, ou du sans-alcool de la cave à manger ou de chez Pascal. Encore des choses à grignoter, comme des quiches de Simone et Simone, des chouquettes de la boulangerie Gilbert ou des produits bio de chez Pascal.
Alors, comment pouvons-nous nous informer pour venir à vos séances Clap Campus ?
Eh bien, vous pouvez retrouver des affiches dans tous les bâtiments du campus de la Courtaisière, à l'ICAM, dans l'école d'ingénieurs, ou dans les résidences universitaires comme la résidence Aquarelle. Sinon, chez nos partenaires et les différents commerçants de la place Napoléon à La Roche-sur-Yon, ou encore sur les écrans des bus Impulsion. Et bien évidemment, vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Instagram.
Quels sont les films que vous avez proposés déjà depuis votre arrivée ?
Alors nous avons proposé dans notre premier film « Make to My Love » de Keshish. Ensuite, une séance spéciale Tommy Wiseau avec The Room et The Disaster Artist. Une soirée spéciale de Cannes avec le film d'ouverture « Everybody Knows » de Asghar Farhadi. Et à cette rentrée de septembre, nous avons proposé Sherazade de Jean-Bernard Marlin. Et la semaine dernière, Sophia Antipolis avec la présence de Virgile Vernier, le réalisateur.
Y a-t-il une séance de prévue pour le mois de décembre ?
Alors oui, Elena, au mois de décembre, on propose une soirée spéciale années 80, le 5 décembre, avec la projection du fameux film Bohemian Rhapsody, qui relate la vie du groupe Queen, où nous allons proposer une ambiance musicale dans le hall du cinéma pour le buffet et avant la séance. Vous pouvez retrouver plus d'infos dans les jours à venir sur nos réseaux sociaux.
Eh bien, merci beaucoup les filles et nous ne manquerons pas de venir à vos soirées Clap Campus.
Merci à toi.
Merci.
Maintenant, passons à un instant mode et beauté présenté par Louise qui va nous parler de la Fashion Week à Paris. Bonjour Louise.
Bonjour. Alors après la grande tendance des fards à paupières pailletés sur les yeux et l'incontournable highlighter pour pommettes qui d'ailleurs ne se démode toujours pas pour l'instant, c'est toujours plus loin que nous emmènent les make-up artistes des grands défilés de mode. En effet, la glitter mania qui a pris d'assaut la sphère beauté ces dernières saisons s'est propulsée un cran plus loin avec le show Giambattista Valli pour la Fashion Week automne-hiver 2018-2019 dont les défilés se sont déroulés cet été en juillet. Fini les détails légers glitter posés en touche à des endroits discrets, place ici à des visages entièrement recouverts de paillettes rose, bleu ou argent. Pour réussir ce look plus scintillant que jamais, la make-up artiste Val Garland a littéralement soufflé les paillettes sur les visages des mannequins, préalablement enduits de vaseline. Un procédé simple mais qui a fait effet.
Intéressant, mais c'est un peu compliqué de réaliser ce type de maquillage tous les jours. Y a-t-il d'autres alternatives ?
Alors évidemment, ce type de maquillage n'est pas adapté à un make-up journalier, mais heureusement, la Fashion Week parisienne nous a aussi proposé des looks plus soft qui apportent un souffle de frais et d'originalité. Les couleurs pastels sont à l'honneur pour les yeux, que ce soit en mascara ou en fard. L'incontournable eyeliner reste encore une fois le best-seller pour perfectionner un look rebelle rock. Et pour les lèvres, le mat, c'est fini, dites bonjour au glowy. Alors cet hiver, on ose la couleur.
Et du côté de la mode par rapport à la Fashion Week, peux-tu nous en dire plus ?
Alors côté mode, si vous rêvez d'un hiver cocooning, la mode automne-hiver 2018-2019 est là spécialement pour vous. Cet hiver, les tendances sont assez simples. Restez au chaud, multipliez les couches et emmitouflez-vous. Mais bien sûr, tout en restant stylé. Alors les imprimés vont être à l'honneur cet hiver. Fleurie, animal, carreau, poids, tout y passe sans exception. L'oversize est le mot d'ordre pour cette période, que ce soit les pantalons en coupe boyfriend ou mom fit, et les gros pulls XXL rentrés dans une jupe, un short ou un pantalon. Les combinaisons pantalons seront la pièce à adopter cet hiver, avec un perfecto on craque directement. Côté manteau, faites place au volume. Peau lainée ou doudoune, quel que soit le modèle, le manteau sera long et XXL. Évidemment, le manteau en fausse fourrure est une nouvelle fois vu comme un indispensable de l'hiver. Symbole d'un esprit vintage, la fausse fourrure est idéale pour passer l'hiver au chaud et à la pointe de la mode.
Et est-ce qu'il y a des tendances au niveau des couleurs et des matières de prévues pour cet hiver ?
Alors côté matière, il faudra aimer le velours lisse et côtelé, le cuir ou simili-cuir et le lamé, qui est un tissu souple au rendu brillant. Et côté couleur, pour cette saison, le noir n'a plus trop la cote et laisse sa place aux couleurs. Alors on aimera le vert sapin, le jaune moutarde, le violet, qui est la star des couleurs de prêt-à-porter, et sans oublier les couleurs orangées, qui a notamment sublimé les défilés Chloé et Isabelle Marant. Idéale par petites touches, la couleur brique est celle qu'il faut adopter dès l'automne.
Et concernant les tendances printemps-été 2019, les défilés ont eu lieu en octobre dernier. Que nous réserve donc 2019 ?
Alors c'est vrai que c'est un peu dur de se projeter et de s'imaginer les beaux jours avec un froid pareil, mais pourtant les défilés pour les futures collections ont déjà eu lieu et ça promet une très bonne année. Alors il y aura des couleurs et notamment le rose poudré afin de faire ressortir notre beau teint hâlé, des sequins pour briller de mille feux dans une ambiance disco vintage que l'on adore, et on n'hésite pas à montrer ses épaules avec notamment le one shoulder qui revient petit à petit à la mode. Côté make-up, maintenant la gaieté va régner sur nos visages. Pour les lèvres, on mise sur des teintes violines et bien sûr l'incontournable rouge profond. Et bonne nouvelle, pour la texture, le brillant et le mat seront à la mode. Alors plus de crainte pour le fashion faux pas. Du côté sourcils, on ose l'excentricité avec des gels de couleurs comme le bleu ou le vert. Et pour le teint, on mise sur des pommettes bien rosées et un effet bonne mine. Et grande nouveauté et bonne nouvelle pour les peaux à tendance grasse, la mode se veut au brillant. Alors attendons bien sagement que les beaux jours arrivent.
Merci beaucoup pour ta participation, Louise. Nous passons maintenant à une petite pause musicale. Elia, entendue précédemment dans Clap Campus, nous propose de découvrir un groupe de musique angevin, Drainer, avec leur musique Le Hasard, qui parle du temps qui passe, des questionnements, des émotions ressenties par un homme à un moment de sa vie.
Les flics dans les rues, les clochards passent sous les ponts. Que la ville est belle, le hasard était pris des cons. Les flics dans les rues, les clochards passent sous les ponts. Que la ville est belle, le hasard était pris des cons. Les flics dans les rues, les clochards passent sous les ponts. Que la ville est belle, le hasard était pris des cons. Divers sont les casse-dalles suivant l'humeur de mes poches. L'humour de mes proches me rappelle l'avenir de mes potes. Je vous l'avoue, j'avais la vie vouée à la faute. Voilà chouf à la fin, à la fête, à la faute. Bref, j'arrive comme le temps qui s'affale sur ton dos, sur tes poumons de feu qui ravalent ces mégots. Emprisonné de la ville, personne ne fuit. Les secondes qui défilent, les ta vie qui s'effrite. C'est le temps qui contraint, les latences qui contraignent. Pourquoi mourir vieux quand on nous promet le ciel? La misère te rencontre quand t'es devant ta glace. Qu'est-ce t'as à te reprocher à part que le temps passe? J'emmerde la moyenne et tous ses doyens. J'suis la voix de la raison, pas celle des citoyens. Esclavage en air, bloqué dans sa cabine. C'est pas la romance ici, disent qu'il se tapine. Du père dans le vice, les soirées passées se dessinent. Vie monotone, c'est l'esquisse qui se destine. C'est l'esquisse qui se destine. Les flics dans les rues, les clochards passent sous les ponts. Que la ville est belle, le hasard était pris des cons. Les flics dans les rues, les clochards passent sous les ponts. Que la ville est belle, le hasard était pris des cons. Les flics dans les rues, les clochards passent sous les ponts. Que la ville est belle, le hasard était pris des cons. Le hasard était pris des cons. T'attaches pas à ma gueule, je partage pas tes valeurs. Ton visage vagabond dans les caves du labeur. C'est Nasta Ville, pour 10 balles t'as les boules. Tina de la verte, idéal pas les couilles. Les képis sont taquins lorsque la ville se couche. Les deux baies de demain te fermeront ta bouche. C'est la tasse qui amasse, c'est pas grave, donne la patte. Pas là par hasard, c'est les camés qui se battent. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous c'est la bouse qui nous passe. C'est pas le temps qui m'a fauché, c'est la banque qui m'a fiché. Face par terre que je recalcule toute la fin. Mourir bon à rien, ça j'avoue j'y ai pensé. T'es débile, tu débites, des rimes et des sticks. Reste mon ami du moment que tu ne sois pas flic. Quand le gars te sent si bon, je sais que je vais déconner. Sa licence enlisée, sans idée j'ai plongé. Les flics dans les rues, les clochards passent sous les ponts. Que la ville est belle, le hasard était pris des cons. Les flics dans les rues, les clochards passent sous les ponts. Que la ville est belle, le hasard était pris des cons. 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 Le hasard, le hasard, le hasard, le hasard. Le hasard, ouais.
Merci encore à Elia pour cette découverte.
À présent, nous retrouvons Louison qui passe du côté des invités puisqu'elle va nous présenter l'innovation Campus Day. Déjà, peux-tu nous décrire ce qu'est et pour qui est-ce que c'est ?
Alors, l'Innovation Campus Day, c'est un marathon créatif qui invite des étudiants de l'Université de Nantes à participer et imaginer des solutions innovantes en réponse à des défis lancés par des organisations partenaires, que ça peut être des grands groupes, des PME, des TPE, des institutions ou encore des associations. L'Innovation Campus Day, c'est l'occasion pour plus d'une centaine d'étudiants répartis en équipes pluridisciplinaires de découvrir de nombreux outils dédiés à la création, à la structuration d'un projet, tels des brainstorming, la création de personas, de business model Canva, ou encore comment faire un bon pitch de présentation de son projet. Tous ces points sont abordés par des petites sessions de 30 minutes, de conférences et de rendus de fiches projets au fur et à mesure des deux jours. À l'issue de ces deux jours de réflexion, toutes les équipes participantes, nous étions 13 donc cette année, présentent leur projet face à un jury et face également aux entreprises qui leur ont lancé le défi. À la suite des présentations, des prix sont remis aux meilleurs projets.
Et pour quelle entreprise as-tu travaillé lors de l'Innovation Campus Day ?
Alors avec mon équipe composée de 8 participants, nous avons tiré au sort et travaillé pour l'entreprise de réseau de transport et d'électricité, autrement appelée la RTE, sur une problématique qui nous a été proposée par celle-ci. Comment communiquer auprès des digital natives sur la transition énergétique ? Pour répondre à leur problématique, nous leur avons proposé un jeu interactif et ludique que nous avons nommé EcoGame. Le concept que nous proposons est entièrement transportable. En effet, ce jeu immersif se présentera sous la forme d'un support composé de 4 écrans blancs pliables, avec au centre de la pièce 4 projecteurs qui projetteront des images du territoire français à différentes échelles, tout d'abord au niveau national, puis régional et enfin local. Les participants devront faire en sorte de maîtriser au mieux les différentes ressources énergétiques pour que dans le futur, la Terre ne ressemble pas donc à un territoire post-apocalyptique. Cependant, s'ils échouent à la résolution de ces missions, la projection dans un futur post-apocalyptique leur sera présentée dans le jeu, avec des indications afin de leur expliquer leurs erreurs et qu'ils agissent mieux à l'avenir.
Quelle a été la finalité de ce projet développé pour l'Innovation Campus Day ?
Pour le moment, ce projet reste au stade d'idée auprès de l'entreprise RTE, qui va l'approfondir éventuellement pour une future réalisation. Et nous avons cependant reçu le prix du public avec un bon d'achat de 20 euros à la FNAC, ce qui est déjà un bon début.
Peux-tu nous résumer en une seule phrase ce qu'est l'Innovation Campus Day, s'il te plaît ?
L'Innovation Campus Day, c'est intense, mais très riche en rencontres, que ce soit professionnelles ou bien entre étudiants. Et j'encourage vivement tous les étudiants lyonnais appartenant à l'Université de Nantes à y participer l'an prochain.
Eh bien, merci beaucoup Louison pour cette présentation de ce projet qui semble vraiment très enrichissant. Dans un cadre plus calme, je laisse Lucille nous parler de la musique Gold. Bonjour Lucille, aujourd'hui on te retrouve pour nous parler de la Gold Music. À toi la parole.
Alors bonjour, je vais vous parler de musique, mais sous un autre angle. Je vais faire découvrir des groupes cultes à des jeunes à partir de chansons qui sont hyper connues. Comme ça, si jamais vous aimez le groupe, vous aurez peut-être envie d'écouter autre chose. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Sunday Bloody Sunday de U2. Donc malgré le Brexit et d'autres événements qui arrivent aujourd'hui en Angleterre, le groupe U2 continue de faire vivre leurs chansons. Cette chanson est un bon exemple de ce que les Anglais peuvent ressentir face à l'abandon des personnes dirigeantes. Qui n'a jamais entendu le rythme de la caisse claire du début ? Qui n'a jamais entendu la voix éraillée de Bono chargée d'émotions quand il chante ?
Peux-tu nous parler un peu plus du groupe U2 plus précisément ?
Alors U2 est un groupe de rock irlandais créé en 1976 par quatre lycéens, Bono ou de son vrai nom Paul David Hewson, qui est le leader et chanteur du groupe. Il joue un peu d'harmonica à ses heures perdues. The Edge ou de son vrai nom David Howell Evans, qui joue de la guitare, du piano et qui fait souvent les chœurs sur les chansons. Adam Clayton à la basse et Larry Mullen Jr. à la batterie. C'est un groupe qui est très présent sur la scène internationale, dans le sens où ils se sont engagés dans la protection des droits de l'homme, notamment avec la promotion d'Amnesty International, avec l'association créée par Bono. Par contre aussi, ils ont eu, depuis les années 80, ils ont eu beaucoup de récompenses. Ils ont eu 22 Grammy Awards, donc c'est quand même pas rien du tout. Et leurs chansons ont des textes hyper simples, mais qui sont très fortes dans les messages qu'elles transmettent. Par exemple, Sunday Bloody Sunday, elle a été chantée lors des concerts des 6 et 7 décembre 2015 à Bercy. Mais c'était des concerts qui ont été annulés parce qu'à l'origine, ils devaient être joués les 14 et 15 décembre, mais avec les attentats, ils ont été déplacés. Mais quand le groupe avait chanté cette chanson, tout le public avait repris en chœur en tant qu'hommage à toutes les victimes. Alors cette chanson, c'est une protest song. Elle est sortie dans l'album Noir le 28 février 83. Elle parle du Bloody Sunday qui a eu lieu en Irlande le 30 janvier 72 à Derry. En effet, les troupes de l'IRA ont assassiné 27 manifestants pacifistes pour des droits civils ainsi que des passants. 14 personnes ont été blessées. Dans ses paroles, Bono est effaré par la bêtise humaine. Il le dit lui-même, « I can't believe the news today ». Et il n'arrive pas à comprendre pourquoi les faits expliqués à la télévision sont réels, mais pas les faits relatés par le gouvernement. « When fact is fiction and TV reality ». Malgré que cette chanson date de 83, elle est malheureusement toujours d'actualité quand on compare avec ce qu'il s'est passé ces dernières années. Il suffit juste de changer les jours de la semaine afin de pouvoir faire la même chanson, mais avec tous les événements qui sont arrivés à cause du terrorisme.
Peux-tu nous expliquer plus précisément ce que c'est une protest song ?
Alors une protest song, c'est une chanson qui condamne des idéologies ou des projets de gouvernement dans le sens où ils ne sont pas forcément conformes aux souhaits et desiderata des habitants. Elle cherche à promouvoir le changement, donc il en existe des millions de chansons protestataires. C'est, oui, en français, c'est soit chanson de révolte, soit chanson protestataire, mais c'est moins joli qu'en anglais. Donc par exemple, il y a eu Born in the USA de Bruce Springsteen, qui parle du fait comment sont traités les vétérans aux États-Unis. Il y a eu Zombie des Cranberries, qui est contre l'armement. Et il y a People Have the Power de Patti Smith, c'est une chanson qui montre que c'est le peuple qui dirigent en quelque sorte les gouvernements, parce que c'est eux qui font les décisions. Et il y a Get Up, Stand Up de Bob Marley, qui signifie qu'il faut, c'est pas forcément d'attendre de le changement, mais c'est à nous de le faire. Et bien sûr, l'hymne pour la paix de John Lennon avec Imagine. Donc la chanson, elle commence toujours par la chanson Sunday Bloody Sunday, parce qu'on va reparler justement de cette chanson. On va se concentrer sur la musique. C'est une chanson qui commence par un riff de caisse claire qui est connu et reconnu, qui est ensuite rejoint par les guitares de The Edge et par la basse de Clayton, et pour finir par la voix reconnaissable de Bono, qui nous explique les faits. La musique, elle reste sur un rythme très lent, qui est facilement reconnaissable dès que la chanson commence, notamment lorsqu'elle est jouée en live, les spectateurs la connaissent tous et la chantent en chœur dès que la caisse claire commence.
Merci Lucille de nous avoir accordé ce temps, et tout de suite une transition musicale avec une musique de U2.
Close my eyes and make it go away. How
à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes toujours sur l'émission Hashtag Info.
Hashtag Info, l'info qu'il vous faut.
Je laisse maintenant la parole à Louison, accompagnée d'Antoine et Nicolas, pour nous parler sport.
Antoine, Nicolas, bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Vous venez aujourd'hui nous parler du marché des transferts du football et de ses scandales. Alors tout d'abord, pourquoi vous êtes-vous intéressé à la dérégulation du marché des transferts du football ?
Aujourd'hui, si on vous parle d'acheter un joueur professionnel 113 euros, vous allez vous moquer de moi. C'est pourtant le premier transfert officiel de l'histoire du football. Willie Groves était transféré à Aston Villa pour la modique somme de 100 livres sterling en 1893. En 1973, le ballon d'or Johan Cruyff, qui ne s'empêchait pas de fumer à la mi-temps dans les vestiaires, était le premier transfert à passer le million d'euros déboursé par le FC Barcelone. On va ensuite constater une inflation grandissante à la fin des années 90. Ronaldo, le Brésilien, est transféré pour 30,5 millions à l'Inter Milan. 4 ans plus tard, le transfert le plus cher de l'histoire est multiplié par 2,5, passant à 75 millions. Zinedine Zidane passait alors de la Juventus au Real Madrid. Le Real va faire sauter la banque en 2009 puis 2013 en recrutant Cristiano Ronaldo et Gareth Bale pour 94 et 100 millions d'euros. Plus récemment, ce sont les pépites françaises qui affolent le marché. Ousmane Dembélé, Paul Pogba et Kylian Mbappé ont été vendus pour une somme cumulée de presque 400 millions d'euros en seulement 2 ans. Aujourd'hui, le joueur le plus cher de l'histoire est le Brésilien Neymar, parti pour le Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros, soit près de 2 millions de fois Willie Groves.
Et comment peut-on expliquer cette inflation grandissante ?
Eh bien, il y a plus d'argent dans le monde du football, donc forcément, les clubs se livrent des batailles sans merci sur le marché des transferts. Les joueurs jouent aussi avec cette compétition afin d'obtenir de meilleurs salaires. Les sponsors investissent de plus en plus, les contrats sont colossaux. Nike paye 105 millions d'euros au FC Barcelone pour son maillot sur une saison, ce qui fait un total de 261 millions en recettes sponsoring et naming. Le naming, un autre moyen de gagner toujours plus d'argent. Arsenal gagne 45 millions d'euros sur une saison pour qu'Emirates puisse être sur son maillot et porte le nom de son stade. La compagnie d'assurance Allianz en a fait une véritable stratégie en s'appropriant le naming de 3 grands stades européens, le Bayern Munich, Nice et la Juventus. Aujourd'hui, le top 10 des clubs ayant les revenus les sponsoring les plus élevés sur une saison représente 1,645 milliard d'euros, soit le revenu du PIB de Saint-Marin.
D'accord, et donc quels sont les autres revenus de ces clubs de football ?
Les droits TV prennent une part de plus en plus importante dans les recettes des clubs. Ils sont en train de littéralement exploser. En France, un accord a été trouvé sur la prochaine période 2020-2024, les faisant passer de 760 millions à 1,153 milliards, soit une augmentation de 60%. Cependant, cette somme peut paraître dérisoire comparée au championnat britannique. 2,76 milliards d'euros ont été répartis la saison précédente entre les 20 clubs de Première Ligue. Les 6 meilleurs clubs d'Angleterre ont touché entre 160 et 172 millions chacun. Cette augmentation vient de l'internationalisation du football, avec notamment le développement du marché asiatique et américain. Certains matchs de Ligue 1 ont été programmés à 13h pour que l'on puisse les suivre en Chine en prime time. Nombreux sont les championnats européens où certains matchs sont joués à midi. En Espagne, on parle même d'aller jouer un match de championnat aux États-Unis en plein mois de janvier, laissant primer l'intérêt financier bien avant celui des joueurs qui devront subir de lourds déplacements.
Et donc Antoine, comment peut-on expliquer un déséquilibre aussi important du marché du football ?
Le problème vient d'outre-Manche, où les clubs les plus modestes perçoivent des revenus égaux, voire supérieurs à certains de nos clubs du top 6. La différence la plus frappante se fait au niveau des droits télé. Le Paris Saint-Germain, champion de France, a touché 56,7 millions d'euros, alors que West Bromwich Albion, dernier du championnat anglais, a récupéré le double. Alors les clubs anglais sont presque en monopole sur le marché des joueurs milieu de gamme, puisque leurs concurrents ne peuvent s'aligner sur leur prix et les joueurs sont recrutés 2 fois plus cher que ce qu'ils valent. Alors sur les 50 plus gros transferts de l'histoire du football, la moitié ont été en destination de l'Angleterre, ce qui lui vaut d'être le championnat le plus relevé au monde.
Cela signifie donc que les clubs anglais sont les meilleurs au monde ?
Eh bien non, pas forcément. Quand on regarde les 10 plus gros transferts de l'histoire, un seul a été en destination de l'Angleterre. Preuve que sur le marché des joueurs haut de gamme, le championnat britannique est encore devancé par les cadors européens, tels que le Real, le Barça, la Juventus, mais aussi plus récemment le PSG. Quand on regarde le palmarès de la Ligue des Champions depuis 2000, 10 l'ont été remportés par des clubs espagnols, contre 3 par des clubs anglais. Alors pour conclure, cette inflation n'est sûrement pas prête de s'arrêter, mais l'UEFA réfléchit à une possible réforme du marché telle que la suppression du marché hivernal ou encore la limitation du nombre de prêts de joueurs afin d'éviter que les plus grands clubs s'accaparent tous les jeunes talents.
Merci beaucoup Antoine pour toutes ces informations sur la dérégulation du marché du football. Nous y voyons donc maintenant tous un peu plus clair. Maintenant passons tout de suite sur toujours la thématique du football, mais sur un autre aspect de celui-ci. Les Football Leaks. Les Football Leaks est un phénomène qui a été publié sur Mediapart déjà depuis plusieurs semaines et qui secoue le monde, notamment à coup de révélations fortes sur les grands clubs européens et plus particulièrement sur les montages financiers manigancés entre ces derniers et les patrons de l'UEFA, mêlant au passage hommes politiques et chefs d'État. Nicolas, peux-tu nous en dire plus sur ce sujet ?
Alors oui, on peut revenir tout d'abord sur l'affaire d'investissement et de fair play financier à l'initiative du Qatar et du Paris Saint-Germain, aidés dans leur démarche frauduleuse par messieurs Platini et Infantino, alors aux rênes de l'UEFA. Pour aider à comprendre pleinement de quoi il est question ici, il faut d'abord préciser comment fonctionne le fair play financier. C'est donc un organisme qui surveille les achats de joueurs et des clubs pour éviter notamment la concurrence déloyale. Cependant, il faut également préciser que le fair play financier n'empêche pas un club d'investir. Il empêche seulement un club de perdre de l'argent et de s'endetter excessivement. Pour prendre un exemple, si le Real Madrid achète demain Paul Pogba pour 200 millions d'euros, le fair play financier s'assurera que ces mêmes 200 millions d'euros soient revenus dans les caisses du Real à une date butoir qui peut être de 4 ou 5 ans selon les cas.
Et donc, quelle est l'implication du Paris Saint-Germain et du Qatar dans cette histoire ?
Oui, donc c'est à ce moment-là que le Qatar rentre en jeu pour le Paris Saint-Germain avec l'achat de Neymar pour 222 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain aurait eu donc à la louche 25 millions d'euros à faire rentrer dans les caisses pour amortir le paiement. Or, le Qatar, via un accord secret avec Platini et Infantino, a pu verser, au travers de son agence de tourisme, 200 millions par an au club parisien. Donc, si le Paris Saint-Germain a besoin de ça pour rembourser Neymar, ça n'est plus de l'investissement, c'est de la subvention et c'est parfaitement illégal.
Et donc, concernant les chefs d'État, sont-ils impliqués dans ces Football Leaks ?
Eh oui, car comme dit précédemment, les révélations ont aussi éclaboussé certains hommes politiques, dont l'ancien président Nicolas Sarkozy, dont on retrouve le nom dans certains documents. On apprend qu'en mai 2014, le club anglais de Manchester City était dans le collimateur du fair play financier pour ses rentrées d'argent suspectes. Ainsi, Khaldoun Al-Moubarak, le président des Sky Blues, aurait fait rentrer 2,7 milliards d'euros entre son rachat en 2008 et 2014, la date des faits. On est donc sur un cas de dopage financier très agressif. Cependant, avec l'aide de Gianni Infantino et par l'intermédiaire de Nicolas Sarkozy donc, le club s'en est sorti avec la minuscule amende de 20 millions d'euros par an dérisoire face aux sommes mises en jeu juste avant. Mais certains chefs d'État sont aussi impliqués comme Vladimir Poutine, qui aurait permis d'injecter plusieurs centaines de millions d'euros dans les clubs moscovites et le Zénith Saint-Pétersbourg illégalement, mais qui aurait trop intimidé l'UEFA pour que l'organisme tente de sanctionner les clubs russes.
Et donc, comment peut-on lutter contre toutes ces injustices ?
Bien, en fait, avec ces trois affaires, on voit que Michel Platini et Gianni Infantino, les deux papas du fair-play financier, sont les premiers à détourner leurs règles pour nous servir leurs intérêts qui sont ceux des clubs ultra-riches. Le problème, c'est qu'il est de ce fait impossible de punir les clubs transgressant à la règle. Et tant que ces mêmes clubs seront jugés devant des cours de justice privées constituées par des juges et des avocats privés également, le tout sous la baguette de l'UEFA, rien ne pourra changer.
Eh bien, merci à toi, Nicolas, pour toutes ces informations. Merci à vous deux d'être venus nous présenter toutes ces informations sur le football et ses enjeux à venir.
Pour terminer cette émission en beauté, une plage musicale avec une auteure-compositrice de seulement 21 ans qui a percé par son titre Blue Light, sorti en 2016, évoquant les brutalités policières, chantée ici pour la chaîne YouTube Colors. Voici Georgia Smith.
Crime and terror, right? Drugs and violence into your left. People. as you're getting off the bus. Shadow shows no emotion, so what's even the fuss? But the face on your boy casts a darker picture of the red-handed act. He's gonna whisper, little blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think, I had to get out of there. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hands in the tool as you question your friendship as men. Like you're gonna make me a convict, devil of a felon when I've done nothing wrong. Blood on my hands, but I don't know where it's from. No, you got blood on your hands, but you don't know where it's from. No, so you better run when you hear the sirens coming. Oh, you better run when you hear the sirens coming.
L'émission touche à sa fin, on vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur le site d'Hashtag Info et nous contacter en allant directement sur ce site si vous voulez participer à nos prochaines émissions.
Merci aux invités d'être venus, Elia, Louise, Antoine, Nicolas et Lucille.
Merci à vous.
Et on remercie également Lionel et Graffiti pour son accueil. Et à vous, chers auditeurs, on vous dit à la prochaine fois.
Au revoir.
Au revoir.
Hashtag Info,
l'info qu'il vous faut.